Alors, je vais suivre là-dessus. Sortir de la 3D, une question de Michael. Penses-tu qu'une personne en mode éveillé puisse augmenter sa fréquence de façon vraiment significative et brutale, un peu comme un choc, juste en s'éloignant des choses nocives, style air pollué, nourriture polluée, vêtements remplis d'agents nocifs, visant à nous maintenir dans notre endormissement, etc. Vu la quantité et la qualité de lumière se déversant sur nous, en plus de cette bulle qui nous a touchés et que tu nous as décrit dans ton article, où peut-on rester là où nous sommes, c'est-à-dire dans cette pollution, en bénéficiant quand même du même taux vibratoire que cette bulle inattendue est venue nous donner? Donc là, j'ai déjà répondu tout à l'heure, c'est-à-dire que les personnes sensibles, eh bien, leur sensibilité va s'accentuer, entre guillemets, au point que ça va devenir de plus en plus infernal. Donc forcément, plus vous serez dans un milieu pollué, et plus vous allez ressentir que c'est pas pour vous, quoi. Donc vous serez, que vous le vouliez ou pas, forcé, vous allez être forcé, en fait, à aller chercher un endroit moins pollué, on va dire, le moins pollué possible. Et comme je vous avais dit, eh bien, les êtres de la nature ont décidé, au lieu de se reconcentrer à certains endroits pour se tirer, parce que bon, pour une grande majorité, ils ont le ticket pour Eléa, eh bien, au lieu de transiter, eh bien, ils ont décidé de rester, entre guillemets, de rester sur Terre plus longtemps, c'est-à-dire de moins se concentrer et d'aller vers l'humain. Donc, il va y avoir des endroits sur cette planète, où les êtres de lumière de la nature vont se concentrer suffisamment pour faire que l'élévation de fréquence, enfin que cette partie soit la moins pollée possible. D'accord ? Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a, on va dire, des formes énergétiques qui sont apportées par nos frères, on va dire, galactiques, comme par exemple certains types de pyramides qui sont posées à certains endroits sur la planète, donc en France il y en a plusieurs, de toute façon ça sera dans tous les pays du monde, et où les êtres de la nature se réfugient, parce que pour eux c'est un peu plus vibratoire, un peu moins pollué, et donc ils vont mettre en œuvre encore plus d'énergie pour faire que la nature soit encore plus rayonnante, on va dire, et donc en fait plus vibratoire. Donc les marcheurs, eh bien, vont se sentir attirés tôt ou tard vers ces lieux. Donc il y aura effectivement des regroupements. Ça ne veut pas dire qu'on va se la jouer communauté, etc., parce que ça c'est encore de l'institution 3D, mais qu'il va se créer, on va dire, des zones spécifiques. Par exemple, vous avez un cadre qui est assez connu, qui est le mont Shasta aux États-Unis, où effectivement, eh bien, il y a des gens qui viennent, ils s'installent et ils savent qu'au bout de 3 semaines, 1 mois, s'ils sont pas dans la vibration du lieu, ils sont obligés de dégager parce que physiquement ils peuvent pas tenir. Hein. Donc, eh bien, c'est la même chose. Donc, à ces endroits-là, eh bien, il y a aussi les intraterres, hein, les intraterrestres qui ont dit, eh bien, voilà, nous allons fabriquer des ascenseurs. À des ascenseurs vibratoires, pour de telle manière que ces endroits-là soient bénéficient, on va dire, des vibrations de l'intra-terre qui sont quand même nettement moins polluées que les vibrations qu'il y a à la surface. En clair, eh bien, il va y avoir donc des lieux qui vont être de plus en plus montés en vibration, avec d'abord l'aide des frères galactiques en posant comme des dômes, des espèces de dômes pyramides pour pouvoir faire une bulle contre la pollution extérieure, la pollution surtout électromagnétique. Ensuite, eh bien, vous avez les intraterrestres qui vont faire des ascenseurs pour pouvoir vous baigner, entre guillemets, dans ce qu'ils appellent l'énergie de l'eau, parce que, bon, ça c'est une expérience que j'ai faite récemment, et c'est vrai que vous sentez que c'est comme si vous enfoncez pas, c'est comme si c'était de l'eau d'une piscine qui commençait à remonter et qui vous submergeait. Mais c'est, vous sentez que vous êtes dans un milieu vibratoire totalement différent. C'est comme si vous étiez dans l'eau et pourtant vous êtes toujours debout dans l'air, vous dites, mais vous sentez qu'il y a une densité quelque part. Et en fait, cette eau qui vient de l'intra-terre, sous forme vibratoire, eh bien, vous nettoie. Et donc forcément, ces plateformes, ces ascenseurs seront placés à des endroits précis, bien sûr, et à cet effet, eh bien, les êtres de la nature qui vivront sous ces dômes feront leur maximum pour que la nature elle-même reprenne ses droits. Il est évident que les personnes qui viendront vivre à cet endroit-là, ils vont pas déménager avec le gros 4x4, vous savez, le MP3, enfin, je veux dire, avec toute leur bastringue de 3D. Les gens qui viendront dans ces endroits-là, ce seront les gens qui forcément auront lâché prise sur un mode de vie 3D lourd. Hein? C'est-à-dire que vous rentrerez dans un autre univers, mais qui est toujours sur Terre. Hein? Et donc, ça sera des bulles, on va dire, de protection en termes vibratoires. Hein? Et donc, forcément, eh bien, à fur et à mesure que le bordel va s'amplifier à l'extérieur de ma planète, par l'extérieur, je veux dire, à l'extérieur de ces dômes, plus les gens vont péter les plombs, plus ils vont faire du décarnage, enfin n'importe quoi, eh bien, plus vous verrez, en fait, un certain nombre de gens se rapprocher de ces lieux parce qu'ils sentiront qu'il se passe quelque chose. Et donc, c'est là le rôle, on va dire, des lampadaires, c'est d'accueillir, voilà. Et donc ces dômes, puisque nous sommes des créateurs incarnés, se grandiront au fur et à mesure que le nombre de gens qui sous ce dôme seront effectivement dans l'amour inconditionnel. Donc il va y avoir, on va dire, comme des bulles de 5D, 6D qui vont se créer à cette surface de la planète, pour pouvoir passer tous les événements qui sont à venir. Donc, je rappelle, la 3D, 4D n'est plus alimentée, et pour l'instant c'est un mort-vivant qui avance sur sa lancée, sur son inertie, mais que la nouvelle, on va dire le nouveau monde, hein, nous sommes à l'an 2, commence à prendre forme. Hein, c'est-à-dire que ces dômes, ces bulles, ces endroits, bon, ils étaient là au départ, enfin ils étaient prévus pour que ça soit là, mais comme on se barrait en banane complètement, puisqu'on n'écoutait rien, eh bien, il est évident que les êtres de la nature se rassemblaient dans ces trucs-là pour partir. Et là maintenant, c'est l'effet inverse. Ils se sont dit, ça y est, on a le signal, donc on va pouvoir jouer. Donc, la leçon de tout ça, c'est que si vous voulez monter en vibration, eh bien, faites en sorte que vous puissiez monter le plus facilement en vibration, c'est-à-dire en abandonnant toutes les choses, toutes les habitudes, tous les automatismes, tous les programmes qui vous plombent. Donc il y en a qui me disent « Ah oui, mais bon, c'est la fête de la grand-mère ou de la cousine, il faut y aller. » Soyez droit dans vos bottes, je peux pas. Je me sens pas bien, ça va mal, je reste à la maison. Et hop, vous y allez pas, et vous allez pas vous faire sucer, parce que un marcheur, eh bien, puisqu'il va monter en fréquence, il va être un garde-manger pour les autres. Donc après, il va y aller, puis il va revenir, il va être plombé, il va falloir qu'il remette une semaine pour qu'il s'en remette et qu'il recommence. Puis après, il y aura encore un autre événement, encore un autre truc, encore un autre truc, encore un autre truc. Et donc, bah, il pourra pas, il se fera pomper, il se fera vider, c'est comme une batterie, quoi. Il pourra jamais devenir pleine puisqu'il se la fait vider à fur et à mesure qu'il la remplit. Donc, c'est pour ça que la nouvelle vague va être, on va dire, plus violente, puisque là, la batterie va charger en charge rapide. Donc, voilà. Donc j'espère que vous avez compris que le nouveau monde est en train de prendre place et que maintenant, eh bien, aussi bien nos frères galactiques que nos frères intraterrestres, que nos frères des êtres de la nature, bossent ensemble et pour nous. Bon, ils l'ont toujours fait, mais bon, je veux dire, ceux qui étaient les plus proches des êtres de la nature, ils faisaient tout pour nous fuir, parce que dès qu'on était en contact avec eux, c'était pour les trucider, hein, parce qu'on n'a fait qu'une chose, c'est de détruire totalement leur habitat. Donc, là, ils ont tourné leur veste parce qu'ils ont compris que si nous montons en puissance suffisamment, eh bien, les choses vont se dérouler quand même nettement mieux pour nous. S'il n'y avait pas eu ça, de toute façon, les cataclysmes annoncés et tous les trucs, de toute façon, seraient arrivés. Ça fait partie de l'horlogerie. Hein, et donc, on peut dire que quand on passe d'un paradigme, c'est-à-dire d'un ancien monde à un nouveau monde, l'ancien monde va disparaître. Que vous fassiez quoi que ce soit, vous pouvez signer des pétitions, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne changera rien. Hein, c'est la seule et unique chose que vous devez faire est d'augmenter votre fréquence. Le reste, c'est du détail. Alors bien sûr, du détail de 3D, on est d'accord, mais comme dire l'autre, faut gérer en attendant que la bascule se fasse véritablement. Et cette bascule s'appelle le retournement. C'est-à-dire s'il y a suffisamment d'individus qui arrivent à se retourner, c'est-à-dire à comprendre que toute cette vie extérieure n'est qu'une illusion, hein, et qui se retournent à l'intérieur et qui reprennent leur véritable pouvoir, donc déjà en passant de l'étincelle d'esprit à la particule d'esprit et ensuite au germe christique, alors là, on aura fait un grand pas, un très 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 grand pas. Donc les êtres de la nature, nos frères de l'intra-terre et nos frères galactiques, ainsi que bon tous les EDL de l'éther, nous regarde en se disant « Hey, vous êtes les derniers de la galaxie. Vous êtes le dernier maillon. Alors si vous bougez votre cul, ça va changer la vie à tout le monde dans cette galaxie. » Donc, j'ai répondu, je pense, à la question de Michael. Une question de Raymond. Suite à l'événement du 18-19 janvier 2014, se pourrait-il que ce déferlement de lumière nous mette en présence de notre multidimensionnalité de façon plus prononcée et concrète? Donc la réponse est oui. Ma petite fille, 5 ans, a un comportement bizarre depuis quelques jours. J'observe que régulièrement, elle est squattée par une énergie involutive, qu'elle souffre de la blessure d'injustice, alors qu'elle n'a cessé d'avoir jusqu'à ici une vibration très élevée de façon stable depuis sa naissance. Je ressens une présence dans ses champs subtils et par le biais de son regard et son changement d'attitude est très significatif. Il est évident que plus, donc c'est une enfant, 5 ans, hein, je rappelle, plus les énergies évolutives viennent nous frapper, plus nous devenons lumineux. Et plus nous devenons lumineux, et plus nous attirons à nous les involuants. Enfin, on les attire. Ils veulent bouffer. Hein, d'accord? Donc, on les attire. Mais arrivé à un certain stade de vibration, ils peuvent plus venir parce que sinon ils transmutent. Donc, il y a une phase, il y a un passage, il y a un certain temps où on va se faire, on attire à nous parce que c'est comme la batterie, je disais, par exemple. Vous étiez chargé à 2%, puis d'un seul coup, vous êtes à 5%. C'est sûr que les autres, ils vont se dire, oh là là là, il y a le garde-manger qui est plein, donc on y va. Mais si vous êtes à 50%, ils pourront plus venir parce que sinon ils vont se faire électrocuter. Donc il y a une petite zone de passage. Et donc cet enfant qui n'a pas encore 7 ans, donc 5 ans, hein, n'est pas encore emprisonné par son mental. Donc le résultat concret, elle vit la chose. Et donc comme elle le vit, eh bien c'est comme ça que Raymond peut voir la différence. Elle va se dire, attends, la gamine, elle était bien, elle était stable. Maintenant elle est plus stable. C'est normal, elle monte en puissance. Donc le regard, son changement d'attitude n'est plus du tout le même. Mais aussi en même temps, dans cette transition, elle attire à elle certaines entités. Et donc ces entités involuantes ne sont pas forcément des choses de l'astral. Ça peut être la mamie d'à côté, ça peut être le voisin, ça peut être le papa, ça peut être quelqu'un qui, lui, a une batterie à 5%, puis quand il voit la fifi qu'on a 15, sans le vouloir, il va aller la sucer. Et c'est pour ça que toute l'humanité est située dans cet état de manque. Et donc, en fait, on se vampirise tous les uns les autres. Et donc, dès qu'il y a un lampadaire qui apparaît, qui commence à pouvoir être au-dessus de la norme, automatiquement, il attire à lui des gens qui disent, qui sentent que s'ils sont en présence, ils en profitent. Donc, c'est pour ça que c'est bête à dire, mais plus quelqu'un est sur le chemin, et plus il faut qu'il s'isole des gens. Ça ne veut pas dire ne plus avoir de communication avec les gens. Mais ça veut dire que tout simplement, il faut avoir moins de temps de contact avec ces gens. Hein, c'est-à-dire, au lieu de dire, oh, j'ai passé tout le dimanche avec un tel, vous passerez une heure. C'est tout. Parce que vous avez d'autres choses à faire. Vous comprenez? Donc, le but, c'est pas de couper la communication, c'est pas de s'isoler dans la grotte et de rien faire. Bien au contraire. Mais simplement, il faut être conscient que votre batterie a des limites. Hein, que votre quantité d'énergie a des limites. Donc, vous restez trop longtemps parmi les gens qui vous sucent, eh ben, automatiquement, vous allez être tellement à plat que vous aurez du mal à vous en remettre. Hein. Donc, par exemple, le simple fait d'aller au supermarché. Hein. Vous y allez, vous faites vos courses, et vous revenez, vous êtes vanné pour 3 jours. Quoi. Donc là, dans ce cas-là, il faut aller faire les courses, mais c'est montre en main. Quoi. C'est-à-dire, vous y allez, en une heure, vous avez fait le tour, vous avez fait le plein pour 3 semaines. Hein. C'est-à-dire que vraiment, c'est vous limiter un maximum. Dire, ah non, je vais aller au cinéma, je vais voir un film, terminé. Hein. Soyez plutôt à la maison, regardez sur l'ordinateur un autre film. Mais vous verrez que de toute façon, tous les films, d'une manière ou d'une autre, sont pourris et vous sucent. Mais vous le découvrirez au fil du temps. Hein. Donc il y a des éléments très simples, comme par exemple virer la télé. Virer littéralement la télé. On s'en fout de ce qui se passe dans le monde, et tout ce qu'il y a à la télé n'est que là, a été fait pour vous sucer. Donc tout ceci vous sera décrit, on va dire, sur CD12D, de comment, on va dire, les involuants ont mis un système en place pour vous soutirer gentiment, tranquillement, l'énergie. Hein? Donc Hollywood, c'est clair, tout ce qui sort d'Hollywood, c'est pas pour votre bien. Alors, une question de 1000. est-ce que l'intra-terre a un rôle à jouer dans le déménagement? Bah, la réponse, je l'ai donnée, oui. Elle a une chose à faire, c'est que tout simplement, en mettant, entre guillemets, des ascenseurs entre l'intra-terre et la surface, eh bien, elle permet d'abord aux énergies de l'intra-terre, c'est-à-dire du noyau de moments Elea, de pouvoir passer, bien sûr, à l'intérieur de ces ascenseurs. Et sachez qu'ils ont des vibrations nettement plus pures que les nôtres, puisqu'ils ne sont pas pollués par l'électromagnétisme, ils ne sont pas pollués par le pétrole, ils ne sont pas pollués par la radioactivité issue de la fission nucléaire, ils ne sont pas pollués par tout ça. Donc, quand ils ramènent, on va dire, des énergies du bas vers le haut, eh bien, ça ramène une vibration qui rappelle à la matière sa véritable vibration. Donc, vous savez, c'est le professeur japonais concernant la flotte. Il suffit de mettre une goutte de flotte qui soit pure dans un étang, dans un merdier, et ce merdier devient pur. Donc, c'est la même chose. Donc, les intraterrestres sont là pour nous déverser déjà, dans un premier temps, des vibrations pures à travers ces ascenseurs. Vous pourrez en bénéficier, et pour l'instant, ils m'ont dit de ne pas divulguer comment on fait, hein, pour l'instant, parce que il y a encore un petit peu trop d'involuement sur cette planète, et ils disent attendez encore un peu, que les énergies fassent encore un petit peu de travail pour déblayer un peu le terrain, transmuter un peu, et puis on vous dira quand vous pourrez donner cette information d'une manière à tout le monde, pour tout le monde. Voilà. Donc il y a aussi des précautions, puisque vous pouvez imaginer que ces puits, ces ascenseurs, seraient totalement pollués si certains involuants venaient et puis faisaient le chemin descendaient dans la cratère. Donc il y a pour l'instant des sécurités à prendre, et ils nous disent maintenant vous savez, vous avez vu, vous avez ressenti, vous savez que ça existe, qu'on ne vous raconte pas des conneries. Bon, mais attendons que ça soit nettoyé un peu, car je rappelle que cette vague a aussi créé une surabondance de particules adamantines. Donc ça va déménager, quoi. Ça veut dire ça va clarifier les choses. Hein. Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer dans le déménagement? Oui, un rôle très 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 important, puisque ceux qui sont en contact avec nous directement pour l'instant, ce sont les êtres de la nature. Alors avant, ils étaient contre nous, on peut dire. Donc pas contre nous, disons qu'ils faisaient tout pour pas être en contact avec nous, donc on risquait pas d'évoluer. Donc maintenant qu'ils sont avec nous, eh bien ils font l'interface d'une certaine manière, et ensuite ceux qui sont les plus proches de nous sont nos frères intraterrestres. Et en étant en contact avec nos frères intraterrestres, eh bien nous aurons beaucoup plus de facilité d'être en contact avec nos copains extraterrestres, nos frères galactiques. Mais croyez pas qu'il va y avoir une soucoupe qui va débarquer, vous allez pouvoir monter dans la soucoupe et vous barrer. Pour la simple et bonne raison, c'est que ce que les ufologues et tous les gens qui pensent ça n'ont rien contre le film, c'est que pour vous balader dans le cosmos, c'est pas avec une tenue de cosmonaute comme on fait pour envoyer nos copains juste en dehors de l'atmosphère de la Terre. Parce que, en fait, le corps biologique que nous avons n'est absolument pas adapté à ça. Puisqu'il possède une Merkaba, pour l'instant, d'un double tétraèdre. Donc, tant que vous n'avez pas, on va dire, d'une manière définitive, intégré déjà votre dodécaèdre, c'est-à-dire la capacité d'être de 5D à la 10D, vous ne pourrez pas aller sur un vaisseau. Parce que vous allez claquer. Votre corps physique sera incapable de pouvoir tenir le choc. Et c'est pour ça que toutes les personnes qui vont sur les vaisseaux vont toujours, on va dire, d'une manière subtile. Ce n'est jamais le corps physique qui y va, parce que le corps physique serait absolument incapable de pouvoir tenir la route. Donc c'est pour ça que les gens qui pensent que il y a des ovnis qui viennent, on va monter dedans et on part, et puis en fait vous allez servir de garde-manger. Mais ils viennent faire le plein de saucissons, quoi. Donc c'est une étape, chaque chose en son temps. Donc d'abord, ce qu'on nous demande, c'est d'augmenter nos fréquences. Plus on augmentera nos fréquences, et plus les portes devant nous vont s'ouvrir. Hein, donc c'est pour ça que je disais aussi qu'au niveau des intraterres, il n'est pas question de rêver que vous dire je vais trouver un ascenseur, et puis je vais descendre, et puis je vais aller causer aux habitants du coin. Imaginez-vous que nous, on est pollués à mort. C'est comme si vous apporteriez 26 virus à la fois, avec 53 microbes complètement, sans compter tous les poisons radioactifs et compagnie. Donc nous sommes pollués, notre corps est absolument, incompatible en termes de vie avec, par exemple, l'intra-terre. Donc, on ne va pas y aller visiter comme ça. Donc, il va falloir attendre d'avoir une certaine fréquence pour pouvoir un jour aller dans l'intra-terre et aller causer avec nos copains. Bon, en attendant, c'est eux qui viendront quand même. Mais ils viendront dans le même esprit que les êtres de la nature. C'est-à-dire que vous ne les verrez pas, mais ils seront là pour causer avec eux. Hein. Donc, voilà, concernant les intra-terres. Donc, ils sont très importants, puisque c'est le premier maillon, c'est les EDLN. Le deuxième, ce sont les extraterrestres. Sachez que les extraterrestres nous donnent un coup de main de l'extérieur, mais ils nous embarqueront nulle part ailleurs, hein, puisque je vous rappelle qu'on est vibration, qu'on est un esprit directeur. Un esprit directeur, il n'a pas besoin d'un vaisseau spatial ou quoi que ce soit. Hein. Voilà. Démographie. Quel impact les changements en cours auront sur la démographie et les conséquences que l'on connaît? Eh bien, la démographie, ça va être relativement très simple, suite à tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, c'est qu'il va y avoir une chute assez brutale du nombre d'individus vivant sur cette planète. Alors, pourquoi? Parce que ben, il va y avoir d'abord tout ce qui va passer suite à ce qu'on appelle des catastrophes naturelles. Donc là, il est évident que tous les gens qui habitent sur les côtes du Pacifique vont avoir un ennui majeur. Alors ils disent, oui, on a toujours vécu là, c'est notre maison, on ne peut pas quitter, on a encore des échéances à payer, ok, il n'y a pas de problème, ils finiront pas leurs échéances, c'est tout. Puis il y a ceux qui vont se dire, bon, je sens qu'il vaut mieux pas rester, même si j'ai ma baraque et tout, et que je l'ai payé, que tout, non. Ils prendront leur valise et ils iront un petit peu plus loin dans les hauteurs, parce que bah, ils écouteront leur petite voix. Vous savez, c'est du même style que le déluge. C'est-à-dire que du temps du déluge, eh bien, tout le monde se foutait de la gueule de Noé. Et puis, bah, pour ceux qui comprennent ce que c'est le déluge et qui ont été un petit peu sur Internet pour voir comment ça s'est passé, eh bien, en l'espace de quelques jours, la planète a été nettoyée. Tout simplement. Et donc, tous les restes de ce nettoyage, eh bien, a pourri, et on appelle ça le pétrole. Donc aujourd'hui, nous roulons avec toutes les décompositions dues à un déluge qui a tout simplement, enseveli du vivant à très grande échelle, avec bien sûr du végétal, et bien sûr, eh bien, ça s'est décomposé. Parce que si vous mettez du bois, vous l'ensevelissez, il ne pourrit pas. Il devient du charbon, mais il ne pourrit pas. Si par contre vous y mettez des animaux et vous y mettez du humain, vous y mettez tout ça, là ça fabrique du pétrole. Et donc cette décomposition amène du gaz. C'est pour ça qu'on a des poches de gaz et qu'on a du gaz. Donc quand nous utilisons du gaz ou nous utilisons de l'essence, du pétrole et n'importe quoi, dites-vous bien que nous ne faisons que réutiliser la décomposition de nos ancêtres. Bref. Bon, c'était juste une aparté. Alors, une question de Heidi qui dit grosse planète. Tes messages inspirés te parlent-ils de l'approche d'une très grosse planète qui pourrait mettre le bazar sur Terre? Alors, là aussi, c'est encore un aspect relativement très 3D qui considère que l'aspect matière, hein, c'est-à-dire un scientifique, il voit une comète, il dit c'est de la matière. Mais dites-vous bien que cette matière n'est qu'un support. C'est le support d'une énergie. Votre corps est bien de matière. Mais bon, quand vous êtes mort, c'est juste de la matière. Mais quand vous êtes vivant, c'est pas seulement de la matière. C'est qu'il y a un individu derrière avec un corps énergétique, un corps mental, un corps émotionnel, etc. Donc quand vous avez des corps astraux qui viennent vous voir, eh bien dites-vous bien que c'est pas un bout de caillou qui vient vous voir, c'est une entité. Donc c'est pour ça que je souris souvent, ils disent « Ah oui, à l'Armageddon, il y en a un morceau qui va tomber, ça va foutre le bordel et compagnie. » Ils ne réfléchissent qu'en termes de matériel, de matière. Ils disent « Voilà, j'ai un caillou qui tombe, alors vu la vitesse, le machin, ça va créer une onde, ça va faire ceci, bon, ok, très bien. » Mais dites-vous bien que les entités qui prennent comme support, on va dire, ce corps de matière, eh bien, viennent inséminer l'aura de la Terre, l'aura du système planétaire. Et donc, ils viennent donc influencer, en termes de fréquence, énormément. Donc, il faut arrêter de regarder uniquement l'aspect du caillou. Il faut regarder aussi l'aspect éthérique, c'est-à-dire l'aspect de toutes les formes de vibrations qui accompagnent, car une planète est un individu, est une entité, hein, qui, tout simplement, vient vous rendre visite. Voilà pourquoi il y a une horlogerie céleste, hein. Vous avez le facteur qui passe tous les jours à telle heure. Bon, bah, c'est ça. C'est voilà, je résume, hein, mais j'espère que vous comprendrez qu'il ne faut pas s'arrêter à l'aspect purement matériel des choses. Voilà. Bien, eh ben, écoutez, j'ai répondu à toutes les questions qui avaient été là. Je vois pas qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre, à moins que vous ayez quelques questions supplémentaires rapidos, mais bon, je suis pas obligé de faire des conférences qui tiennent 3 heures, on est d'accord. Bien, bah écoutez, je vais arrêter là, hein, et de toute façon, vous allez avoir des informations supplémentaires au fur et à mesure que nous allons avancer dans la parution des articles sur les différents blogs. Oui Brigitte, je comprends pas là ce que tu me mets là, c'est typographique, je comprends pas. Page suivante, c'est les crânes de cristal. Alors il y a une page suivante. Ah, d'accord. Très bien, je croyais qu'il y avait une page. Bon, mais on continue. Alors, les crânes de cristal. D'accord. Donc, les crânes de cristal. Il faut savoir qu'il y a forcément une relation. Quand on a parlé des êtres de la nature, c'était parce que c'était la continuation du contact avec les crânes de cristal, c'est-à-dire des esprits cristallins. Si vous prenez contact avec un esprit cristallin, eh bien, vous allez voir que vous allez prendre contact avec des êtres de la nature. Alors, je rappelle que ces esprits cristallins, c'est une partie de vous-même. Donc, nous sommes tous un. Nous sommes dans toutes les dimensions. Donc, l'esprit cristallin avec lequel vous allez prendre, on va dire, connaissance, n'est qu'une partie de vous-même. Donc, vous allez, dans un premier temps, souvent, commencer par un petit crâne. On va dire que le petit crâne, c'est juste le chef d'orchestre. Il dit, bon, ah, ça y est, on attaque. On va essayer d'être le plus près possible en termes de dimension de mon alter ego, c'est-à-dire moi-même. Donc généralement, quand vous avez des petits crânes, eh bien vous allez avoir la multidimensionnalité, on va dire, de 5D, 6D qui se pointe à vous, grosso modo. Et puis après, eh bien, au fur et à mesure de votre capacité à vous recoller avec vous-même, entre guillemets, eh bien, vous allez découvrir que vous aurez tôt ou tard envie d'acheter un crâne plus gros. Parce que plus le crâne est important, plus cela veut dire qu'il a de puissance. Or, cette puissance est directement proportionnelle à la dimension à laquelle il appartient. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais derrière, maintenant, moi, j'ai un petit crâne, il fait 500 grammes, j'en ai un qui fait 1 kilo, puis là, maintenant, j'en ai un qui fait 5 kilos. Oui, c'est toujours vous, mais dans des dimensions différentes. Donc généralement, enfin moi je prends mon cas, si vous avez un crâne de 5D, par exemple le mien, moi c'était le premier, il s'appelle Xiroa, donc il fait partie de la famille des Xi, et bien forcément quand j'ai eu un crâne d'une dimension supérieure, c'est toujours un Xi, mais de la dimension supérieure. Et vous allez me dire, oui, bah alors ça fait plusieurs personnes ça. Ben non, c'est toujours le même, mais pas sur les mêmes bandes de fréquences. Donc, ces esprits cristallins sont ni plus ni moins, non seulement une partie de vous-même, mais ont pour, rappelez-vous, pour fonction principale de gérer l'information de la grille cristalline. Or, il faut savoir que la grille cristalline, nous sommes d'abord, nous, des êtres cristallins. Si on est composé de flotte et que la planète est composée de flotte principalement, c'est parce que nous sommes cristallins. Donc, nous sommes dans le principe un être cristal. Et donc, le fait de reprendre contact avec un esprit cristallin, bien, vous allez voir que cet esprit cristallin, vous allez dire, oui, j'achète n'importe quel crâne, n'importe où, bien, vous verrez que dans ce crâne viendra un esprit cristallin qui vous correspondra, parce que c'est vous. Hein? Mais bon, ça, je ne vais pas aller dans le détail aujourd'hui là-dessus, mais il y a des choses à savoir par rapport à tout ça, mais pour l'instant, un certain nombre de gens ont acheté des crânes de cristaux juste pour le plaisir de les avoir sur les étagères et de croire que le fait d'avoir un crâne de cristal, c'est simplement avoir un ticket pour Elea, ce qui est absolument faux. Alors bien sûr, c'est une marche, mais ça ne veut pas dire que vous irez sur Elea du tout, parce que quelqu'un qui, pour l'instant, n'arrive pas à rentrer en contact avec un crâne de cristal, bah, il aura plus de difficultés pour rentrer en contact avec d'autres, on va dire, entités. Mais bon, c'est possible, hein, il n'y a pas de souci. Enfin bref, ce sont des facilités. Donc je vais commencer à lire les questions quand même. Une question de Sylvette. Comment être en relation optimale avec son compagnon de cristal? Eh bien, c'est simple, il y a des techniques, il y a des choses à savoir. Et, comme dirait l'autre, j'en ai déjà parlé sur Être de la nature, mais là, j'en parlerai un petit peu plus longuement dans des articles à venir. Et comment dire, parce que maintenant, il faut qu'on mette le turbo. L'année dernière, une tentative a été faite avec Monsieur Bleu, qui s'est, on va dire, comporté comme un soldat, disant faut faire ci, faut faire ça, et qui a distribué des coups de pied au cul un peu partout. Mais c'est pas la méthode avec le préhumain. Ça, ils s'en sont rendu compte. Et donc, cette affaire, on va dire, a globalement foiré. Bien. Donc, comme ça, globalement foiré, et bien maintenant, il y a une technique différente, et c'est ce qui va se passer sur ce site, sur le site de Être de la Nature, où il va y avoir maintenant une manière d'agir et de vous faire comprendre que acheter un crâne de cristal n'est pas juste l'achat d'un bloc minéral. Voilà, donc les choses se mettent en place, c'est en cours, et comme je l'ai dit, eh bien, je ferai quelques stages parce que bon, vous avez, on va dire, vous savez, la difficulté, mais bon, je ne vais pas trop aborder maintenant, mais je vous donne un truc. Beaucoup de gens disent, ah oui, les crânes de cristaux, c'est tellement cher, on ne peut pas les acheter. Ben, c'est simple, parce que les gens qui vous les vendent ont multiplié par 6, voire par 8, voire par 10 leur prix d'achat. Donc, ce qui veut dire qu'il y a du business à mort. Ils s'en foutent plein les fouilles. Donc, l'objectif, vous le verrez des stages, ça sera tout simplement de collecter cet argent pour acheter des crânes directement chez le fabricant et de le revendre pas à prix coûtant, mais quasiment. Donc, il est évident que l'accessibilité, on va dire, à un crâne de cristal et donc à la communication avec un esprit cristallin va être d'autant facilitée. Mais il faut savoir pourquoi on achète. D'accord? Bon, bref, tout ça, c'est un ensemble. Alors, rôle, une question de Brigitte. Peux-tu nous en dire plus à part s'en servir comme téléphone? Quelles sont les autres fonctions des crânes de cristal? Peut-on me dire la différence entre un crâne maître et un maître crâne? Bon, alors d'abord, maître crâne et crâne maître, c'est déjà encore de la folie douce de 3D, parce que, en fait, ils sont tous nos maîtres. C'est-à-dire, en clair, quand vous êtes en contact avec un esprit cristallin, dites-vous bien que c'est le plus grand de tous les guides que vous puissiez avoir, puisque c'est vous-même. Donc, crâne maître, maître crâne, on s'en fout. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lignée d'un crâne, c'est-à-dire la dimension à laquelle il appartient, est directement proportionnelle à vos capacités d'évolution. En clair, si vous achetez un crâne de, on va dire, 50 grammes, il n'y aura pas besoin d'aller loin, hein, vraiment, eh bien, vous allez forcément avoir des crânes de petite lignée, hein, puisque, bah, comme ils sont des petits, 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 on ne va pas mettre du diesel. Condensé, on va pas mettre, on va dire, une grosse centrale nucléaire concentrée dans un petit cube, dans un dé à coudre, par exemple. Donc il y a un effet, il y a bien sûr une proportion entre la taille d'un crâne et la dimension à laquelle appartient l'esprit cristallin. Alors il y a des malins qui se disent, ouais, ben moi je vais acheter un crâne de 10 kilos ou 15 kilos, comme ça j'aurai une top tout de suite. Oui, mais si t'es pas foutu de causer avec lui, je vois pas à quoi ça va t'amener. Si t'es pas foutu de commencer à causer avec un esprit cristallin de 5D, je vois pas comment tu vas causer avec un esprit cristallin de 12D. Ça va pas jouer là. Ça va pas jouer du tout. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui veulent griller les étapes, mais tout ça, ce n'est qu'une fonction de l'ego, du mental ego qui dit je veux maîtriser, je veux contrôler, je veux avoir tous les pouvoirs. Dites-vous bien que la capacité à communiquer avec les esprits cristallins est aussi directement proportionnelle à votre capacité à dégager les circuits énergétiques que vous avez en vous. Pas seulement au niveau des 7 premiers chakras, mais on va dire sur les 12 premiers chakras. Parce que les esprits cristallins sont là, entre guillemets, pour vous donner la maîtrise, enfin vous donner, vous faire redécouvrir la maîtrise de votre corps de manifestation. Voilà, quand on dit donc le premier cercle de crâne de 12 plus 1, c'est-à-dire de 12 crânes de lignée 1 plus le 13e, bien, il faut comprendre que dans la réalité, ces 12 crânes correspondent en fait aux 12 cubes, aux 12 dimensions qui correspondent à la partie incarnée de votre esprit directeur. Et donc le 13e crâne, entre guillemets, n'est celui qui est que dans la 13e dimension, qui permet donc d'unifier les 12 autres. Enfin bref, j'expliquerai tout ça au fur et à mesure, parce que c'est vrai que si je lâchais toutes ces informations, aujourd'hui, tous les gens qui, la grande majorité, qui ont acheté des crânes de cristal et qui ont suivi, on va dire, la canal de Monsieur Bleu, les yeux fermés, prendraient ces informations pour acquérir encore plus de pouvoir et donc d'être encore plus indépendant. Donc pour l'instant, on attend que la lumière fasse son travail et on va travailler d'une manière différente. Mais dites-vous bien que ceci est absolument nécessaire à la transition, on va dire, de l'information du jeu de Urantiagaïa vers Elia. Dit autrement, si ce cordon, si la puissance... Imaginez que les esprits cristallins, ce sont des ordinateurs, des serveurs, c'est-à-dire ceux qui gèrent l'information et donc la quantité d'information. Il est évident que si nous faisons, en tant qu'humains, nous n'arrivons à faire qu'une cérémonie concernant le premier cercle, hein, qui est vital, hein, c'est-à-dire les 12 crânes plus 1, eh bien, nous sauvegarderons le rat des pâquerettes, c'est-à-dire à peine la mémoire de l'humanité. Parce que les serveurs, il n'y en a pas beaucoup et ils sont limités. Si par contre, je vous apprendrai ça plus tard, il y a 3 autres lignes de crâne, avec un certain nombre de crânes à mettre derrière, eh bien si cette totalité est faite, à ce moment-là, la puissance des serveurs sera telle que l'ensemble de toutes les règles du jeu de notre galaxie pourront être sauvegardées et migrées vers Elia. Alors bien sûr, toutes ces informations, je vous les donnerai au fur et à mesure, parce que pour l'instant, je ne peux pas tout vous mettre comme ça à plat sur la table. Les choses se construisent gentiment. Et je sais qu'on vous dit, on est pressé. Le mental, l'ego est pressé. Mais une chose, il faut commencer par le début. Commencer déjà par acheter un crâne. Il faut pas besoin d'un gros, hein, vous savez, nous on a des crânes à 20 euros. Donc on a commencé avec des choses simples, petites, hein, c'est pas la peine de se prendre la tête. Et de commencer à suivre la musique, de rentrer en contact avec les êtres de la nature, et vous allez voir que progressivement, vous allez monter en puissance. Parce que les esprits cristallins, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent sur votre corps cristallin. Et donc, s'ils travaillent sur votre corps cristallin, ils vous décrassent. Et donc, vous montez encore plus en vibration. Donc, c'est une aide, c'est un guide. Et c'est pour ça que ce fameux monsieur bleu disait, écoutez, vous aurez besoin d'un guide si vous voulez ascensionner. Parce que si vous voulez le faire que par votre mental ego, parce que vous pensez que, de toute façon, vous allez foirer à 300%. Enfin bon, on y reviendra. Transition des EDLN, une question de Marie-Miel et Pierre. À propos des êtres de la nature, dans la précédente webconf, il était dit que pour les préhumains puissent prétendre aller sur Elia, il faut être de la 24e dimension au moins. Et aussi que les EDLN se regroupent depuis plusieurs mois maintenant pour partir avec maman Elia, et qu'ils sont de la 5e voire de la 6e dimension. S'agit-il des mêmes dimensions? Pourquoi ce n'est pas les mêmes exigences pour les préhumains et pour les EDLN en termes de niveau vibratoire? Et ce qui s'est passé le week-end du 18-19 janvier change-t-il quelque chose à ça? Bon, j'ai répondu à la question. Hein? Donc, les EDLN appartiennent à la 5D, 6D. Et les élémentaux appartiennent à la 2D. D'accord? Donc, les EDLN sont là pour, quand on dit 5D, 6D, c'est-à-dire qu'ils sont dans le moteur du ciel, ils sont là pour aider, en termes vibratoires, le moteur de la Terre. Et nous, on est coincé au milieu. Hein? Donc, on parle bien des mêmes dimensions. Hein? Et vous verrez que dans un jeu, ce sont des dimensions dites de conscience. C'est-à-dire que quand on vous dit de maîtriser, par exemple, votre véhicule de manifestation, ça veut dire maîtriser les 12 premières dimensions de ce que vous êtes. Mais il en reste encore 12 autres. Hein? Mais c'est un niveau de conscience. Car nous sommes complets, nous avons déjà tout en nous, les 24 dimensions sont déjà là. Mais qu'est-ce qui débloque ces dimensions? Eh bien, c'est notre conscience. Or, si nous sommes bouchés à l'aimant, si on dit « non, ça n'existe pas, c'est des conneries, c'est que de la féerie, là, vous êtes de la nature, tout ça », c'est sûr que vous n'allez pas vous reconnecter aux dimensions, puisque vous refusez d'ouvrir la porte. Si par contre, vous êtes ouvert comme un enfant, et que vous laissez la porte s'ouvrir, eh bien, à ce moment-là, vous allez découvrir que c'est déjà en vous. Donc, il n'y a rien de l'extérieur qui vient vers vous. Les portes, elles sont purement intérieures, et c'est à vous de les débloquer. Alors, il y a plein d'aides autour de vous, oui. Mais qui fait le boulot, c'est vous, et en vous. Et c'est pour ça que cette histoire de retournement est importante. Parce que, tant que vous ne vous retournerez pas, eh bien, vous croirez que vous êtes toujours dans un monde extérieur. Et donc là, vous êtes foutu. Une question, donc, communique avec eux. Une question de Michael. As-tu quelque chose à ajouter par rapport à cette bulle que tu nous aurais pas encore dévoilée et par rapport à notre rapport au contact avec les êtres de la nature et autres? Alors, cette bulle, c'est peut-être celle que j'ai causée un petit peu avant. Je peux pas en dire plus. Cette bulle. Bon, il faudra quelquefois aussi, parce que si ça parle de ce qu'on appelle l'aspect cognitif et intuitif, hein, ces bulles cognitives et intuitives, c'est en fait, c'est vous reprenez conscience de ce que vous êtes en termes de ressenti. Et donc, à partir de là, c'est que vous ouvrez les portes. Et donc, quand on est dans ce notre champ cognitif et intuitif, vous vous donnez la permission de pouvoir rentrer en contact avec l'invisible. Donc, vous voyez, ça n'a foutrement rien à voir avec le troisième œil. Le troisième œil est une falsification. Et ça, on viendra en parler une autre fois quand nous aborderons ce qu'on appelle le cube métatronique. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là, donc chaque chose en son temps. Pierre, une question de Pierre. Tu as dit aussi dans ton actu que les EDLN allaient être beaucoup plus enclins à communiquer avec nous, de même que les intraterrestres. Est-ce à dire que la méthode de communication peut être plus simple ? Donc je réponds oui, il suffit d'être dans ton champ cognitif et intuitif, et à partir de ce moment-là, puisque les autres, au lieu de te fuir, viennent vers toi, ça va être beaucoup plus facile. Depuis que tu as donné la méthode pour entrer en contact avec notre petite voix et les crânes, je la pratique, mais pour l'instant, je n'ai pas de résultat. Je désespère un peu, alors que pourtant, je n'ai aucune difficulté à ressentir mon corps de manifestation avec de multiples champs qui virevoltent les uns dans les autres. Je ressens mes corps en quelques secondes sans aucune difficulté, même lorsque je suis en pleine activité. Pourtant, je n'ai aucun signe de ma petite voix. Pourrais-tu me donner un conseil ? Alors, le problème de Pierre, c'est que effectivement, il a des ressentis par rapport à quelque chose, et là où ça bloque, c'est que c'est surtout, une catégorisation mentale qu'il a faite. C'est-à-dire, c'est comme il dit, voilà, il y a un bâtiment, il y a la salle de séjour, enfin, j'ai un appartement, il y a la salle de séjour, maintenant j'arrive à détecter la cuisine, j'arrive à détecter les toilettes, j'arrive à détecter ceci, j'arrive à détecter cela. Et il dit, bizarre, mais je n'arrive pas à communiquer avec les habitants, c'est-à-dire sa petite voix. Donc, on voit bien qu'il y a une différence fondamentale entre avoir fait l'inventaire des murs, ressentir les murs, toucher les murs, quitte à connaître la couleur du papier peint ou le motif du carrelage, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des habitants dedans. Donc les habitants, la première habitante, c'est la petite voix. Et donc ces petites voix, eh bien, bon, certains sont en contact avec, eh bien, ces petites voix, vous pourrez la contacter au même titre que vous pourrez contacter un être de la nature. Mais pour cela, il faut d'abord ouvrir la porte de l'appartement. Si vous n'ouvrez pas la porte de l'appartement, comment voulez-vous détecter une vie à l'intérieur de l'appartement? Donc, voilà ce que je dis à Pierre. Pour l'instant, tu as bien inventorié tes différents corps, tu as bien inventorié, comme tu dis, ton corps de manifestation, très bien, mais maintenant, il faudrait quand même ouvrir la porte à l'invisible. Et c'est parce que tu ne l'as pas ouvert, parce qu'il y a quelque chose en toi qui fait que, hein, donc ça sera... Il y a des techniques, des trucs, des choses, on est d'accord. Hein, il y a donc certains thérapeutes, hein, alors je dis pas tous les thérapeutes, hein, parce que là, c'est pareil, il y a certains thérapeutes qui sont capables de faire un certain travail à distance et de pouvoir débloquer ce genre de choses. Parce que des fois, bah, il suffit tout simplement de dire, bah, c'est bien de vouloir ouvrir la porte, mais si tu trouvais déjà la clé pour pas la cadenasser, ça serait déjà pas mal. Donc, il t'aide à trouver la clé du cadenas, et puis, bah, à partir de là, enfin, donc à ouvrir la serrure, et à partir de là, tu pourras ouvrir la porte. Mais pour l'instant, il y a, on va dire, une serrure qui est fermée, et tu ne sais pas où trouver la clé. Donc là, bah, un petit coup de pouce, on va dire, d'un serrurier, ça peut aider. Hein. Donc bah, j'encourage Pierre à ce moment-là à m'écrire, et je lui donnerai les coordonnées d'une personne qui est une super serrurière, hein, et qui fait des miracles. Voilà. Alors, leur monde. Alors, j'ai une question de Gaïa. Ma question concerne les EDLN. Pensant beaucoup à eux en ce moment et en les imaginant à tel ou tel endroit quand je me balade, je me demandais quelles étaient leurs perceptions du monde par rapport à nous. Étant en 5D, comment impactons-nous leur environnement qui doit être différent du nôtre puisque notre fréquence est différente? Alors, il est évident que d'abord, quand on est en 5D, hein, 5D, 6D, hein, dans le moteur du ciel, eh bien, dites-vous bien qu'il n'y a plus de nuit. C'est-à-dire qu'il fait jour en permanence. Donc déjà, là, c'est-à-dire qu'il ne voit que de la lumière, il ne voit pas de l'ombre. La seule ombre qu'il voit, c'est-à-dire une lumière amoindrie, sont les involuants. Donc ils peuvent voir où il y a le moins de lumière. Et donc là où il y a le moins de lumière, ben, ils n'y vont pas, parce que sinon ils seront absorbés. Donc c'est pour ça que les êtres de la nature sont, sont s'éloigner un maximum de tous les involuants. Alors il faut savoir que les êtres humains sont quand même des bons involuants quand même, hein, en majorité, et que forcément les égrégores qu'ils ont créés sont encore plus involuants, puisque les égrégores, on va dire, dominent l'humain, parce que c'est l'humain qui nourrit les égrégores. Donc enfin bref, les êtres de la nature donc sont souvent coincés, donc voient en fait, entre guillemets, quand ils voient qu'il y a moins de lumière à un endroit, eh bien ils détectent en fait qu'il y a une sombritude. Et donc cette sombritude, c'est une involution, c'est-à-dire au lieu qu'il y ait de la joie et qu'il y ait de la communication et que ça pète dans tous les sens, enfin quand ça pète en termes de lumière, que ça irradie dans tous les sens, c'est le contraire, c'est un espèce de trou noir. Donc vous imaginez qu'il s'en éloigne. Donc le maître mot, vous allez dire, ben oui, mais alors comment ils vont faire pour rapprocher nous? Eh bien, ils vont voir là où il y a de l'ombre, on va dire, mais avec un brin de lumière. C'est-à-dire que si vous avez votre petite flamme qui s'allume, si votre particule d'esprit commence à briller un tout petit peu, eh bien, ils vont se rapprocher de vous. C'est comme ça qu'ils vous détectent. Mais si quelqu'un n'a pas allumé ce que j'appelle la veilleuse du chauffe-eau, ben, il vous voit pas véritablement. Si, il voit, il y a un truc sombre, et sans plus. Donc, il ne voit pas le monde de la même manière que nous, hein, ça c'est sûr. Vraiment pas. Hein. Donc, quand nous, on voit un mur, il voit pas le mur. Il voit d'autres murs, mais pas ceux-là. Enfin, c'est assez, assez particulier. Alors, une question concernant de Pierre sur les immortels. Tu as précisé à quel niveau se placent les EDNL, anges, archanges. Mais est-ce que tu sais où se placent les immortels incarnés comme Wilson? Eh bien, Wilson est en 5D, 6D. Hein, comme tous les immortels, c'est-à-dire qu'ils sont passés du côté de l'invisible, hein, mais ils sont encore attachés, entre guillemets, à une certaine forme, on va dire, physique, dans le sens qu'ils appartiennent, on va dire, à la race humanoïde. Donc quand un immortel se retrouve, on va dire, en 5D, 6D, c'est-à-dire de l'autre côté du voile de l'oubli, eh bien, ils sont conscients de ce qu'ils sont. Ils restent humanoïdes, ils évoluent bien sûr dans les lois de l'un avec les êtres de la nature, mais ils restent des esprits directeurs incarnés. Simplement, ils ne s'incarnent pas dans un corps physique, biologique de carbone, mais sont dans un corps, on va dire, qui est uniquement le dodécaèdre, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le double, il n'y a plus l'aspect carboné. Ils sont cristallins, puisque quand on dit passer en 5D, 6D, c'est passer au silice. Hein, silice, silicium, c'est sable, c'est du sable, eh bien, ça veut dire qu'ils ont été capables de passer dans leur côté cristallin. Et donc, ils n'ont plus de carbone. Et comme ils n'ont plus de carbone, ben, nous, on ne le voit pas. Mais ils sont là. Hein. Donc, ils continuent leur progression fréquentielle, c'est-à-dire que, par exemple, Wilson est en train de découvrir c'est quoi le corps de manifestation. Parce que vous avez, selon les cas, on va dire, il y a donc par exemple certains saints ou certaines saintes qui passent en 5D, 6D, mais qui n'ont absolument aucune maîtrise du corps de manifestation. Parce que ils ont prié longtemps, parce qu'ils étaient dans le cœur, parce que si, parce que ça, il y a eu, ils sont montés à la fréquence supérieure, mais ils sont toujours coincés sur Terre. Ils ne vont pas se balader, on va dire, sur Andromède ou ailleurs. Non, ils sont toujours coincés sur Terre parce que ce sont toujours des esprits directeurs qui sont là. Simplement, ils ne sont pas dans le même véhicule avec la même fréquence. Par contre, toutes les personnes qui passeront bien sûr en 5D, 6D, par rapport au Nouveau Monde, eh bien, vont voir d'abord les êtres de la nature, mais verront aussi les saints et les saintes et les immortels. Hein, quand on dit immortels, ça veut dire qu'ils ne sont plus dans un corps mortel. Donc la notion de temps ne veut plus rien dire pour eux. Hein, ça, c'est encore une autre chose. Les êtres de la nature n'ont pas de montre. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Quand ils disent je suis fatigué, je veux dormir, ils dorment. Il n'y a pas d'heure. Et puis quand ils ont fini de dormir, ils ouvrent les yeux et continuent. Donc ça ne s'arrête jamais. Le monde ne s'arrête pas, c'est pas comme chez nous, quoi. Hein? En France, il est 2 à 3 heures du matin, tout le monde qui dort, quoi. Ça s'arrête, quoi. Là-bas, chez eux, ça s'arrête jamais. Ça n'existe pas. Hein? Donc la notion de temps est absolument différente. Donc, Mais est-ce que tu sais où se placent les immortels incarnés comme Wilson? Ils ont en effet activé leur pouvoir divin tout en restant incarnés. Ils peuvent voyager quand bon leur semble, ce qui veut dire qu'ils maîtrisent parfaitement leur véhicule de manifestation. Certains sont même métamorphes. Alors là, je corrige un petit peu. On est toujours en contact avec Wilson, puisque bon, maintenant il a aussi son propre chemin. Et donc, Wilson est la dernière fois, enfin du côté du mois d'août, était en train de s'amuser à travailler ce qu'on appelle sa bilocation. Donc, ce qui veut dire que quand il voyageait, c'était à pied, il n'était pas capable de se projeter dans un autre endroit. Donc, il ne faut pas croire que le fait d'être immortel dit que tu maîtrises ton corps de manifestation. C'est faux. D'accord? Et quand tu viens métamorphe, c'est quand tu arrives à la 11D, 12D. C'est-à-dire plus précisément la 12D. C'est-à-dire que quand tu arrives dans le moteur 11D, 12D. Parce que le moteur 11D, 12D, eh bien, je rappelle une chose, c'est que c'est le début de l'icosaèdre et aussi qui correspond au cube métatronique. C'est-à-dire que c'est un début de... C'est un début du commencement de la maîtrise du cube métatronique. Et donc, parce qu'une fois que vous passez de la 13D à la 18D, qui est la continuation du cube métatronique, eh bien là, vous n'avez plus qu'une forme. Hein, vous n'avez plus qu'une forme. Vous êtes un être linéaire, vous n'avez plus de forme. Hein, donc, vous avez une forme mentale, mais vous n'avez plus de forme physique. Voilà pourquoi, quand vous arrivez dans la 11e, 12e dimension, vous avez cette capacité de pouvoir prendre toutes les formes que vous voulez. Donc, par exemple, l'archange Michael a cette capacité métamorphe, d'accord ? C'est-à-dire de pouvoir prendre la forme humaine. Mais ce n'est pas un humain. Il n'a jamais été humain de sa vie. Il n'a jamais été dans une forme humanoïde. Il n'a jamais été incarné dans une forme humanoïde. Hein. Par contre, Métatron, lui, ne peut pas. Parce que Métatron va jusqu'à la 18e dimension, et le fait d'être dans cette partie supérieure, c'est-à-dire de la 13 à la 18e, lui interdit toute matérialisation, quelle qu'elle soit. Parce qu'il est dans ce que je vous en rappelle, un féminin masculin. Alors que l'archange Michael est encore dans un masculin féminin. Hein, il est dans une partie incarnée, mais vibratoire maximale. Donc, voilà. Donc les immortels sont les saints et les saintes sont dans cette partie entre guillemets. Hein, c'est-à-dire ils ont encore une forme humaine pour la majorité des cas, mais ils ont encore du boulot à faire. Hein, parce que s'ils étaient en parfaite maîtrise, et le seul qui a réussi à le faire, je précise, s'appelle Saint Lambda, c'est-à-dire le Christ Jésus quoi. C'est-à-dire que quand on devient Christ, c'est avoir la parfaite maîtrise de son corps de manifestation, c'est-à-dire que tu es passé en 13D, et si tu es passé en 13D, tu n'as plus de corps, tu n'en as plus besoin, et donc ce qui n'est pas le cas des saints, des saintes et des immortels. Donc ils sont en fait des êtres humains qui sont simplement dans une fréquence supérieure, on est d'accord, mais qui ont encore du travail à faire. Donc je me demande si finalement ils n'auraient pas atteint le stade de Christ et qu'ils ont juste désiré continuer le jeu en l'état. Donc, je t'ai répondu sans avoir lu la question, mais voilà. Donc, ne devient Christ que celui qui est capable de passer en 13D et plus. Si tu n'es pas passé en 13D, ça veut dire que tu ne maîtrises pas ton corps de manifestation encore. Donc, si tu ne maîtrises pas ton corps de manifestation, tu n'es pas Christ. Voilà, tout simplement. Hein? Christ, c'est le bâton de maréchal, quoi. C'est le plus haut niveau que vous puissiez avoir en termes d'incarnation. Mais c'est quand on dit Christ, tout le monde pense à Jésus. Ben oui, il n'y en a qu'un jusqu'à maintenant qui a réussi à le faire. Je vais corriger un tout petit peu parce qu'en fait, il y en a un deuxième, il s'appelle Métatron. Mais Métatron l'a fait bien avant Christ. Donc Métatron est un humain. Il a été humain. Et donc, quand on discute avec Métatron, il comprend très bien quand tu manges, quand tu bois et quand tu taquines la copine. Il comprend parfaitement. Par contre, t'en parles avec Michael a un peu plus de difficultés, là, parce qu'il n'a jamais été humain. Il peut prendre la forme humaine, mais il n'a jamais été humain. Il n'a jamais été incarné, on va dire, dans un corps humain. Pourrais-tu donner quelques éclaircissements si tu as l'information, sachant qu'il y a différents niveaux d'immortels selon leurs fonctions, par exemple ceux de Wilson, dont je ne connais pas le rôle, les maîtres des éléments, les grands immortels, les gardiens, les prêtresses de la lune. Donc là, bon, on va dans le détail, mais ça n'a pas d'importance pour nous. Ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est d'augmenter notre fréquence. Et donc, si nous augmentons notre fréquence suffisamment, à ce moment-là, nous passerons effectivement en 5D, 6D. C'est-à-dire avant qu'il y ait le passage, on va dire déjà dans un premier temps, vers les 10 planètes, parce que le passage vers 10 planètes va se faire en fonction, bien sûr, de votre longévité. Hein, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas mourir au 31-12-2014. C'est-à-dire, plus longtemps nous resterons incarnés, et plus nous pourrons évoluer consciemment. Hein. Donc, ceux qui, que ça va lâcher en cours, ils iront sur les 10 planètes, on est d'accord, mais le jeu continuera jusqu'à mort sans suivre, on va dire. Donc, la mort sans suivre, pour nous, c'est tout simplement augmenter notre fréquence pour passer le plus tôt possible en 5D, 6D, et même mieux, aller encore plus loin. Puisque, en passant en 5D, 6D, en ayant cette vibration dans ce corps, nous, qu'est-ce qui nous empêche d'aller en 9D, 10D, 11D, 12D? Qu'est-ce qui nous empêche de devenir Christ? Rien. Puisque c'est la période qui le permet. Donc aujourd'hui, on va dire, la grande logique de cette affaire, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un maximum de gens qui puissent devenir Christ. Pourquoi? La réponse est relativement simple. S'il y avait simplement 10 Christ sur cette planète, 10 personnes qui arriveraient à devenir Christ, leur puissance serait telle qu'ils irradieraient, on va dire, leur fréquence christique à l'ensemble de l'humanité qui ferait un bond littéralement quantique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout le monde en un claquement de doigts pourrait franchir toutes les dimensions. Donc, s'ils disent s'il y en avait un, ça serait pas mal. il n'y en a pas encore pour l'instant, mais s'il y en avait un, ça serait pas mal. Et c'est pour ça que si vous vous rappelez ce qu'il vous rappelait en lisant les écrits, quand Jésus disait mais vous ferez comme moi, il pensait qu'effectivement, 2000 ans plus tard, il allait y avoir des dizaines, voire des centaines de Christ. Il n'y en a pas. Donc, vous pouvez comprendre que c'était un peu la débâcle, là, quand même. Mais là, cette nouvelle impulsion qui a eu donc le 18-19, fait entrevoir une possibilité extraordinaire que des Christs puissent apparaître sur cette terre. Et ces Christs ne dépendent que d'eux-mêmes, c'est-à-dire que nous avons en nous la totalité de toutes les dimensions. Il suffit simplement d'ouvrir les portes intérieures, donc d'être capable d'abord de se retourner pour ensuite pouvoir ascensionner. Or, avec les doses d'énergie qu'on va se reprendre et tous les messages, on va dire, vibratoires qu'on va se prendre dans les dents, associés, on va dire, à quelques explications quand même pour comprendre un peu ce qui se passe, la possibilité qu'il y ait des Christs qui apparaissent, on va dire, dans les années à venir, ça pourrait être demain, comme ça pourrait être dans un an ou deux ans, serait un changement radical pour l'humanité. Puisque à ce moment-là, comme je vous rappelle, on est dans le bac à sable, comme on est dans un aquarium, si effectivement il y avait un Christ, deux Christ, trois Christ ou 10, ça ferait comme la goutte d'eau, vous savez, d'Imoto, là, c'est-à-dire une goutte d'eau pure dans la mare à canards, d'un seul coup, la mare à canards deviendrait pure. C'est ça. Et donc, c'est ce qui est espéré, rêvé, on va dire, par toutes les instances supérieures. Parce que là, il suffirait d'une pichenette de pas grand-chose pour que ça se passe. Et à ce moment-là, tous les événements qu'il y a devant nous seraient littéralement asphyxiés. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui devrait nous arriver en fin d'année, cette fameuse vague émise par le soleil, le bouclier serait tellement intense que ça ferait rien du tout. C'est con, on va dire, mais il faut peu. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment se laisser porter par la vague et y aller à fond, quoi. Dans le sens de la vague. Et il suffit, je vous dis, de 2, 3, 4, 5, ils disent pas, parce que c'est sûr que s'il y avait 1000 Christ, alors là, c'est instantané, quoi. Ils disent, s'il y en avait un, ce serait déjà pas mal, mais s'il y en avait 10, alors là, c'est le nirvana. Imaginez que s'il y a 10 Christ, ça veut dire qu'il y aura, on va dire, des centaines de milliers de gens qui pourront aller sur Elia. C'est ce que ça veut dire. Donc, au moment Elia, elle est en attente, elle se dit, putain, s'ils y arrivent, et ils sont capables de le faire. Et donc c'est pour ça, puisque, si vous voulez, cet événement du 18-19, ils se sont dit, putain, ils y sont arrivés. Comment ils ont fait, on ne sait pas, mais il y a eu suffisamment d'individus ayant élevé leur vibration pour que ça se passe. Donc, pourquoi pas? Et donc, ils se mettent à rêver. Et donc, je peux vous dire que là, ils sont volontaires. Tout le monde est volontaire. C'est pour ça que je vous dis, c'était la folie douce. La folie douce. Pour tout le monde. Voilà, donc il reste... Bah, une question, voilà, tout simplement. Leur avis sur notre progression, alors une question de bébé. Que te disent les EDLN sur notre travail et le plan d'ascension? Eh ben, je crois avoir répondu, c'est qu'avant ils disaient qu'on était totalement bouché à l'évangile, et c'est toujours le cas pour la majorité, hein, rassurez-vous, mais le but c'est qu'ils, là, ils mettent tous les moyens en œuvre pour nous déboucher. Hein. Donc le premier préposé à dire « j'entends mal, est-ce que tu peux me mettre un coup de soufflant dans l'oreille, ne vous inquiétez pas, ils vont souffler fort. » Quitte à avoir mal au crâne, hein, je vous le dis, mais ils vont souffler fort. Donc, les EDLN étaient, donc, je rappelle, les entités les plus proches de nous. Et donc, comme ils voyaient véritablement qu'on était des bouchers à l'émeute totale et qu'on allait de plus en plus vers une dégradation, une autodestruction totale, eh bien, je peux vous dire qu'ils avaient tourné les talons et puis belle lurette, hein. Donc là, cet événement a fait que ben eux ils se sont dit ben il faut jouer le jeu à fond, donc on se retourne vers eux et on va leur donner le maximum de capacité. Donc tout individu qui veut maintenant rentrer en contact avec les êtres de la nature peut le faire parce que les êtres de la nature viennent vers nous. Mais pour ça, il va falloir avoir une petite flamme allumée, c'est-à-dire d'avoir le cœur ouvert, d'être respectueux et de ne ben, de foutre son mental ego de côté, quoi. Hein. Et si c'est le cas, bien vous allez voir que vous allez découvrir des êtres, on va dire, merveilleux, qui vivent selon les lois de l'un. Donc, être au contact, être à leur contact, vous amène des fréquences. Dites-vous bien que si un être de la lumière vous approche, de la nature vous approche, il rentre dans votre aura. Et en rentrant dans votre aura, il vous donne une signature, c'est-à-dire une fréquence spécifique qui lui appartient, bien sûr. Et donc, vous avez des êtres de la nature qui sont spécialisés par rapport à certains chakras. Donc, moi, je sais que la deuxième petite fée qui m'avait approché et que j'avais porté sur moi, on va dire, pendant une journée, eh bien, avait la particularité d'être une fréquence sur le cœur. Et donc, elle m'a touché. C'est pour ça que je l'aimais énormément, parce qu'en fait, en pénétrant, on va dire, dans mon aura, elle a débouché quelques petits tuyaux concernant mon petit cœur et je me sentais amoureux avec elle. Enfin, je veux dire, j'ai toujours une pensée pour elle, je me sens connecté à elle, et en fait, elle m'a aidé à m'ouvrir. Et puis, bah, il y a d'autres êtres de la nature qui jouent à d'autres fréquences, sur d'autres chakras. Et donc, plus nous sommes en contact avec eux, et plus, en fait, ils nous débouchent les tuyaux. Donc ça, c'est un travail extérieur fait par les êtres de la nature. Et si vous vous rapprochez des esprits cristallins, hein, ouais, bien sûr, vous pouvez acheter un cristal XYZ, il y a bien sûr une entité dedans. Mais le fait qu'elle ait la forme d'un crâne rentre en résonance avec votre propre forme. Et c'est pour ça que cet esprit cristallin est en fait en accord avec vous, puisqu'il rentre en résonance. Et donc, selon la forme du cristal que vous achetez, hein, du crâne de cristal que vous achetez, eh bien, en fait, si vous y allez avec le cœur, avec l'intuition, ben vous verrez que ça correspond en fait à votre véritable personnalité, votre véritable, vibration fondamentale. Ok ? Donc, moi, j'ai des crânes un peu bourrins, parce que je suis un bourrin. Voilà. Et il y a une licorne avec moi, c'est un bourrin. Eh ben super. Je suis un bourrin, ok? Très bien. Donc, je vais pas essayer de chercher un crâne qui est tout taillé en finesse et tout, parce que ça me correspond pas. Donc, vous comprenez. Donc, en vous laissant porter par un achat, on va dire, intuitif, eh bien, vous permettez, en fait, de faire que vous vous rapprochez. Vous permettez à une partie de vous-même, qui est un être cristallin qui est vous-même, de se rapprocher de vous. Donc ce n'est pas seulement un téléphone portable, hein, pour répondre à la question précédemment, c'est pas juste un téléphone, c'est un amplificateur aussi. C'est-à-dire qu'il amplifie votre capacité à vous connecter à vous-même. Donc bien sûr, au début, bah, vous allez causer, niveau 1, bah, je te cause, tu me réponds oui, non, au niveau 2, bah, je te cause, mais tu me donnes des réponses un peu plus longues, on est d'accord. Donc il y a 5 niveaux d'activation, mais globalement, il faut déjà comprendre que le simple fait de faire la démarche, de rentrer en contact avec un esprit cristallin, c'est que vous faites la démarche intérieure de dire « je me reconnecte à moi-même ». Les esprits cristallins ne sont pas des entités comme les EDLN extérieurs à vous-même, ne sont pas des entités comme des extraterrestres ou des intraterrestres, c'est vous-même. Et donc, l'association, vous comprenez que en se connectant avec les crânes et en même temps se connectant avec les êtres de la nature, eh bien, vous avez un travail qui se fait en vous-même, au premier niveau, et aussi à l'extérieur de vous-même. Et donc, à ce moment-là, vous mettez, bien sûr, tous les bons points de votre côté. Et forcément, après, eh bien, ça sera beaucoup plus facile quand vous serez plus en contact avec les êtres de la nature, de pouvoir rentrer en contact avec les êtres de l'intra-terre ou avec des EDL ou avec des frères galactiques. Mais il faut commencer déjà à avoir un contact avec soi-même, à l'intérieur. Donc, d'où cette notion de retournement qui est capitale, et avoir en même temps des aides extérieures que sont les EDLM. Vous comprenez? Donc, c'est un travail. Il faut jouer, vous savez, vers l'infiniment petit, l'infiniment grand, entre l'intérieur et l'extérieur, parce que nous sommes la terre du milieu. Nous sommes entre les deux. Donc, voilà, donc quand les gens disent, moi, j'ai pas besoin de crâne, non, moi, puis moi, j'ai pas besoin de guide, oui, d'accord. Bah, tu peux toujours essayer de rentrer en contact avec les EDN, c'est bien, oui, d'accord, mais il y a quelque chose qui va manquer quelque part. Il y a un truc qui va manquer. Hein? D'accord? Bien, bah écoutez, je vais m'arrêter là, pour cette conférence, cette webconf de ce soir. Et je vous donne rendez-vous demain pour des questions, on va dire, qui étaient restées en suspens sur cette D12D. Parce que vous imaginez bien que depuis cet événement du 18-19, eh bien, mon planning, enfin quand je dis mon planning, les choses qu'on me demande de faire ont un petit peu bifurqué par rapport à ce qui était prévu avant, quoi. Donc là, voilà. Je partais en voiture avec l'idée de camionnette et maintenant je suis un SMI, donc... c'est pas tout à fait le même travail, c'est pas la même conduite, et les virages que je vais prendre sont pas aussi courts, on va dire, hein. Le rayon de braquage est pas aussi court. Bien, et ben écoutez, je vous dis donc à demain, merci pour tout, et au revoir.